Javier Sousolopez, qui est donc professeur de français au département de philologie française de l'Université de Grenade, département dont il est directeur depuis 2018. Et les activités de recherche de Javier sont orientées vers l'histoire de l'enseignement du français langue étrangère et seconde, bien sûr, un champ de recherche qu'il a contribué à animer, en particulier au sein de la CIFLES, donc une société savante hein, dont il a été président pardon, de 2014 à 2018 et dont il est désormais vice-président aux côtés donc, d'Espina Provata. Mais l'engagement pour l'histoire du français à l'étrangère est également mis en lien dans ses recherches avec le présent de la didactique des langues. Avec un intérêt en recherche pour les approches actuelles dans l'enseignement-apprentissage des langues et la politique linguistique du Conseil de l'Europe. Donc, Javier Sousolopez a beaucoup contribué à la revue Documents pour l'histoire de l'enseignement du français langue étrangère et seconde, et il a également publié en 2006 l'ouvrage intitulé De un niveau seuil au cadre européen commun de référence pour les langues sur des aspects historiques récents de la didactique des langues. Donc, alors je te cède la parole pour 45 minutes environ, Ravière. À toi.
Merci, Marc, de cette présentation. Et de même, merci aux organisateurs. Je veux vous remercier de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à prononcer cette conférence et de m'avoir fait cette confiance, cette responsabilité. J'espère être à la hauteur, tout simplement, je le dis. Étant donné que je vais commencer à partager l'écran, je me suis engagé dans une ligne de travail extrêmement vaste suite à une idée que j'avais eue il y a pas mal de mois d'unir la question de opposer l'approche structurale scientifique et l'approche humaniste dans ces années-là. Et donc, je me suis engagé à garder cette perspective, ce qui m'a entraîné dans énormément de complications. Enfin, j'espère, comme on dit en espagnol, ne pas tomber dans le piège de vouloir trop prendre, hein, embrasser et de peu éteindre. Quien abarca mucho. Bon, donc je partage avec vous mon écran. Donc voilà le titre. Le plan de. Je vais vous montrer le plan de l'exposé de la conférence. Je veux également aller assez vite puisque j'ai trop de choses à dire, peut-être. Donc, tout d'abord, vous proposer un panorama des recherches qui ont été faites, des répercussions sur principalement trois domaines, le lexique, la phonétique, la grammaire, la question de la disciplinarisation de la linguistique, quelques idées pour un bilan sur le rapport de la création de la linguistique appliquée dans ces années-là. Et donc les considérations finales sur le rapport du scientifisme à l'humanisme. Je vais évidemment entrer en rapport avec de nombreuses choses qui ont été dites le long du colloque. J'espère aussi reprendre les mentions que j'ai écoutées, entendues, qui m'ont fait revenir peut-être à certaines formulations que j'avais faites et j'ai intégré peut-être à mon discours. Première question, évidemment, que je me suis posée, c'est l'articulation de cette histoire de la recherche historique avec le regard présent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut regarder le passé avec des yeux objectifs, externes, ne prenant pas en compte notre regard actuel? Bon, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai essayé peut-être de rentrer dans l'esprit de l'époque et voir les enjeux qui se posaient à l'intérieur de ces années-là, de manière, je pense, objective. Donc, tout d'abord, pour aborder ce vaste domaine, faut contextualiser un petit peu. Je me suis servi de la lecture de ce document, de cet article de Jean-Claude Chevalier, qui avance aux années 55-56. Tout simplement et très rapidement, je dirais que les courants de... Je vais prendre la montre. Les courants de recherche qui étaient présents dans l'université française au début du siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale étaient dominés par deux courants, représentés par la philologie avec Bruno et Charles Bruno, qui avaient fait déjà une première linguistique appliquée avant la lettre. La philologie, l'histoire de la langue, avec une création d'archives de la parole, une fondation, un institut de phonétique appliquée, mais destinée principalement à un recueil d'archives sonores. Et la linguistique qui commençait à pointer à la fin du 19e, avec Meillet, qui travaillait à l'école pratique des études, qui présidait la Société linguistique de Paris, et à Genève également, où se produisent donc la publication du cours de linguistique générale des chaussures, qui est destinée à Genève en 1991. Donc, cette situation. Donc, vous voyez ici que j'essaye de faire une linguistique philologique française en prenant en compte certaines élaborations qui se font en dehors de la France, dans d'autres pays francophones, donc la Suisse et la Belgique. Principalement, et j'ai pas eu le temps évidemment de faire entrer des questions, des élaborations faites par des départements de philologie française de pays non francophones. Évidemment, ce serait une histoire bien plus longue. Donc, après la Première Guerre mondiale, Jean-Claude Chevalier le fait voir parfaitement, la nouvelle linguistique commence à rentrer dans les recherches, dans les préoccupations des linguistes, des professeurs, publications de Sapir, de Jespersen, de Vandry, de Trubetskoy, qui vient chercher Meillet, qui le fait rentrer à la Société linguistique de Paris, de Guillaume. Et ce sont le congrès linguistique de La Haye et le congrès de Genève qui donne le coup d'éclat donc de la naissance de la linguistique structurale et donc les années 30 qui continuent donc les publications avec la... Attendez, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas, voilà la dernière ligne, et qui ont publié le bulletin du cercle linguistique de Copenhague et qui est créé la revue Acta Linguistica. Donc, premier chapitre, une présentation globale des recherches en linguistique française. Bon, Jean-Claude Chevalier le disait déjà pour son article, c'est un immense sujet. Donc, retracer l'intégration tumultueuse et progressive des idées structurales dans la philologie française à partir des années 50, donc c'est un immense sujet. Je vous propose tout d'abord de jeter un coup d'œil au guide que j'ai élaboré, que j'ai mis à votre disposition dans Google Drive. Donc autant pour vous montrer l'immensité du sujet, l'immensité des publications qui sont faites. Mais aussi donc dans l'idée que c'est ouvert à toute modification, élimination des ratas, de compléter les choses que je n'ai pas vues, je n'ai pas dites. Donc, c'est un outil ouvert que j'offre à tous ceux qui sont intéressés. Si quelqu'un n'a pas le droit d'accès, j'ai donné le droit de lecture. Si quelqu'un veut avoir le droit d'accès de changer les choses, mais qu'il me le dise, et puis sans aucun problème. Donc, j'ai intégré pas seulement le titre, j'ai essayé d'intégrer également les liens avec lesquels on peut accéder à l'ensemble des publications, celles qui sont en ligne, bien sûr. Alors, vous voyez, depuis 41, cahier de Fermier en Saussure, le français dans le monde en 61, études de linguistique appliquées en 62, phonétique appliquée en 65, langage 66, cahier de la publicité qui est la communication langage, le français aujourd'hui, langue française en 69, recherche linguistique de Vincennes, pratique en 74. J'ai intégré de d'autres revues qui sont créées dans les années 70, au-delà des années 75, parce qu'elles m'intéressent très, très importantes pour connaître évidemment l'évolution de cette intégration de la linguistique nouvelle, l'information grammaticale, l'écrit de la linguistique française. Il faudra ajouter d'autres revues qui sont publiées en dehors de cette époque-là, qui continuent, Acta Linguistica, qui publie évidemment des textes linguistiques appliqués, des travaux qui sont publiés dans d'autres revues qui ne sont pas spécifiquement consacrés à la matière linguistique, Journal de psychologie, Diogène, la psychanalyse, compte rendu, bon, je passe. Il y a évidemment aussi à consulter les ouvrages, les monographies, les actes de colloque. Je donne ici une petite liste, évidemment très, très, très incomplète. C'est peut-être les lectures que j'ai trouvé dans certains cas et que j'ai pu regarder, qui m'ont servi à ma formation comme professeur de français dans les années 70-75. Évidemment, publication de dictionnaires, de manuels de linguistique, de sciences de langage, de didactique, depuis Galisson, lexique, dictionnaire encyclopédique, dictionnaire de linguistique, manuel linguistique appliqué, dictionnaire didactique de langue, dictionnaire fondamental de la langue. Bon, le linguistique guide alphabétique de Martinet, très intéressant, très important, 51 articles. Les grammaires, évidemment, qui sont élaborées à l'époque. Je passe puisque c'est suffisamment connu. Il faudrait compléter tout ça avec les répertoires et les sélections bibliographiques que font les éditeurs eux-mêmes, l'Institut de recherche pédagogique également, ou des sélections bibliographiques qui sont faites un peu partout à la fin des différents articles, des différentes publications. Donc, je dis, il faudrait ajouter les recherches qui se produisent dans les pays non francophones, dans des revues qui publient souvent en français, Acta Linguistica, Lingua, Iral, revues de linguistique appliquée, Folia Linguistica, les colloques qui se sont tenus. Il y en a un très intéressant en Budapest qui publie un volume très intéressant sur la linguistique française à Bucarest. Donc, tous les départements de philologie française des pays francophones ou non francophones, bon, département universitaire des pays non francophones, pardon, là, il y a une erreur, où il y a pas mal de Français expatriés qui vont avoir leur influence dans l'établissement de cette linguistique. Alors, par exemple, Capel, Cosseriou, Renard, Rigaud, Marty, bon, Di Pietro, Bertini, Mandler. Donc, thématique de recherche, je vais passer très, très rapidement parce que autrement, je vois que le temps passe. Il y a des thématiques de la méthode de recherche elle-même, les nouveaux courants de linguistique, général, appliqué, grammaire générative, le sémantique, théorie grammaticale, psychologie, analyse de discours. Bon, j'ai essayé de regrouper ici ce que j'ai pu, hein. Le lexique, la bibliographie, la grammaire du français, la syntaxe, la morphologie, la sémantique, phonétique, phonologie, discours, l'énonciation, la méthodologie de l'enseignement de l'apprentissage du français, etc. Donc, voilà, face à cette immensité, bien sûr, ce n'était pas mon objectif de rentrer Attendez, je partage l'écran. Maintenant, comment je fais pour retrouver mon... PowerPoint? Excusez-moi. C'est bon, c'est ça. Vous voyez mon écran? Je partage
mon écran. Non, on ne voit pas ton écran. Il faut que tu partages. Non, on ne voit pas l'écran.
Je vais donc partager l'écran maintenant. Là, ça va, n'est-ce pas?
Oui, c'est bon.
Bon, donc, mais je voudrais maintenant revenir à mon PowerPoint. Voilà, je suis là. Attendez, mais je ne vois pas pourquoi j'arrive pas à... Excusez-moi, mais j'arrive pas à retrouver dans mon écran.
À côté du coup. En bas là, de ton PowerPoint, l'icône à côté du moins, là, oui, ça.
Oui, c'est ça. Ah voilà, c'est bon. Voilà. D'accord. Donc, quelques idées sur cette formidable explosion de la recherche, la revue. Bon, je passe parce que j'ai déjà utilisé 15 minutes. Bon, quel peut être le point commun à toutes ces recherches? Là, ça m'intéresse de regarder ça, puisque c'est un point que je vais reprendre à la fin de mon exposé. C'est le changement d'attitude envers l'objet, qui se définit comme tout d'abord comme une structure. Bon, j'ai mis l'exemplier également à votre disposition. Bien sûr, pas avec l'idée de le lire pendant que je fais l'exposé, mais de le lire tranquillement de votre côté, chez vous, ceux qui sont intéressés. Et je reprendrai bien sûr certaines idées qui sont dans l'exemplier. Donc, conception de la langue comme structure dans deux grandes conceptions. Tout d'abord, la structure du point de vue européen, comme le dit Benveniste, dans laquelle il y a un réseau de relations, un système logique, la pensée humaine qui organise la langue. Et de l'autre côté, la linguistique américaine, pour laquelle la structure, c'est uniquement la répartition des éléments, etc. Donc, à partir de cette distribution de deux concepts de structure, il va y avoir le développement, bien sûr, d'une linguistique structurale plutôt axée sur la forme uniquement et peut-être moins axée sur la forme uniquement que de la linguistique européenne. Donc, deuxième idée, c'est une langue qui est dépouillée de la substance pour ne garder que la forme, où la langue est donc un système de formes. Je reprends un tableau présent chez Mackay, qu'il a lui-même réélaboré à partir de Henslef, dans lequel donc, il présente de manière très didactisée comment la linguistique structurale s'occupe uniquement de la forme du contenu et de la forme du contenant, c'est-à-dire de la manière où la langue formalise les connaissances du monde exprimées sous forme littéraire, philosophique, historique, psychologique, etc., qui constituent la substance. Mais comment donc la langue formalise ces connaissances-là, l'unité de langue, un concept linguistique, et comment de même, quant à la substance du contenant, c'est-à-dire les moyens physiques par lesquels toutes les langues sont articulées, les gestes, intonations, paroles, etc., donc comment chaque langue formalise sous forme de système phonologique particulier à chaque langue. Donc, deuxième grand point de base. Troisième, c'est la méthode de recherche elle-même. Hier, dans la table ronde, j'ai pu indiquer certaines choses de ce côté-là. Bon, je reprends ce que j'ai dit ici dans cette diapo très, très rapidement. C'est la constitution d'une méthode de recherche dans laquelle, cruciale, puisque c'est la définition de l'objet détermine une méthode de recherche, dans lesquelles il faut une technique, il faut un instrument qui détermine la scientificité et le résultat donc absolument objectif à travers les moyens d'expérimentation et de statistique. Quels apports, deuxième chapitre, donc très rapidement, bien sûr, quels apports se produisent tout cet ensemble de recherches? Je passe absolument sur la question du français langue maternelle, même si je m'étais intéressé un petit peu à la question, parce que je considère qu'on peut pas séparer, on ne doit pas séparer ce qui se passe en français langue maternelle et français langue étrangère. je pense qu'il y a des points de contact qui expliquent des choses. Et donc, j'avais voulu faire ça, mais enfin, ça déborde évidemment mon propos et qui est destiné sur le français en étrangère. Et je signale les limites donc de cette dans le chapitre dans l'exemplier numéro 6, citation numéro 6, je dis uniquement une chose. Dans le FLE, par contre, donc si je vais m'arrêter un petit peu plus, je me suis servi de ces études-là pour marquer un petit peu mon positionnement. Et j'ai réparti les influences des répercussions de la réussite scripturale en FLE, en ces quatre domaines. Bien sûr, je ne vais pas parler de l'influence sur la constitution des méthodes, les publications qui accompagnent le CREDIF et les études qui sont faites par Daniel Coz, notamment en 70, ont pratiquement balayé cette question suffisamment. Et donc, je vais m'arrêter un petit peu plus sur le lexique, parler à la phonologie et la grammaire. Une idée globale de base, c'est la confrontation à un contexte applicatif qui constitue l'une des lignes de démarcation et d'évolution des élaborations théoriques. Donc, tout d'abord, pour le lexique, de même, le français fondamental, nous avons tous eu l'occasion de participer, enfin, je pense, sinon il y a le document destiné à cette rencontre. Nous avons eu une rencontre CIFLES récemment sur le français fondamental et pratiquement énormément de questions étaient élaborées dans ce colloque. Est-ce que c'est une répercussion? Est-ce que c'est de la linguistique nouvelle, de la linguistique culturelle? Pas peut-être de manière directe, je dirais, mais oui, quant à la philosophie, quant à l'approche globale, quant à l'approche globale de la linguistique comme quelque chose qui doit s'occuper de la langue parlée courante et de la méthode statistique. Et donc, c'est un objet de délimiter le contenu lexical et syntaxique d'une langue. Au cours des applications du français fondamental dans les manuels, dans les élaborations de matériel langagier, on a vu bien sûr des inadaptations, des descriptions structurales en vue de l'élaboration d'outils langagiers didactisés. Je reprends ainsi une citation de Capel reprise par Daniel Coz, qui dit donc que les descriptions de langue étrangère utilisables n'existe pas, c'est-à-dire description, il regrette qu'il n'existe pas de description morphologique du français parlé et que ce n'est pas la description de toutes les variétés du français du XXe siècle qui intéresse, mais plutôt celles qui doivent être enseignées dans les écoles. C'est une remarque de 61. De même, une citation de Bonjour Lynn, préface de Bonjour Lynn, qui voilà, les auteurs de Bonjour Lynn disent évidemment la manière de parler des enfants de 8 à 10 ans possède des caractères originaux dans la structure de la phrase qu'il faut décrire avant de pouvoir mettre en marche un manuel, un matériel langagier, description qui ne se trouve pas toute faite et que c'est eux qui doivent faire. Et en tout cas, je signalerai tout simplement que le français fondamental se situe dans le sillon de l'intérêt porté dans une certaine tradition linguistique française à la question du lexique en tant que représentatif des mots depuis la pensée et la langue de Bruno en passant par Vandry, Meillet, Dauzat, Mathoré. Et c'est une question qui est reposée dans les recherches et dans les publications qui se produisent à l'époque. En tout cas, attendez, il y a, je vois que bon, je ou encore des problèmes pour revenir. Voilà, c'est c'est la constatation dans les journées de Sèvres de 1961 qui se produisent à l'initiative du Bell, l'ancien de réunir les chercheurs et les didacticiens du FLE de l'époque, donc qui élaborait les cours CREDIF. Il y a une constatation de difficulté à produire une description d'un objet linguistique conforme à l'optique structurale qui puisse servir à l'enseignement du FLE, et donc de l'écart qui se produit déjà entre la recherche et l'enseignement. Et c'est de cette constatation que naissent une volonté de produire des recherches, des élaborations dans le domaine propre du FLE, par exemple du côté de Galisson dans le lexique et de Rigaud dans le français parlé. Élaboration donc propre au domaine du FLE, qui se produit en dehors des cadres universitaires ou des préoccupations universitaires globales de l'époque, qui revendique une scientificité et qui revendique donc leur volonté d'application en fixant comme objectif de décrire la langue parlée située dans le contexte de parole, significatif, transmettant des messages et aussi tout un temps normé. Question qui évidemment échappe absolument à l'optique structurale et à un concept de structure comme système organisé, puisque la norme est une notion sociolinguistique. Et donc, il se produit déjà à l'époque, dans les années 60, un écart entre l'élaboration théorique du domaine disciplinaire du FLE, qui unit la recherche et l'enseignement, et qui se fait donc principalement en dehors de l'institution universitaire, et donc les recherches qui se font dans l'institution universitaire, qui se consacrent à des descriptions structurales, à l'issue discours, à l'issue discours politique, qui ont une finalité applicatrice interne à l'université elle-même. Deuxième pan de réflexion, évidemment, vous voyez, c'est très simplifié tout ce que je dis. Hein. La phonétique de la phonologie, je regrette ce côté-là de ne pas avoir pu écouter non plus la conférence de la communication de Jérémy Sauvage sur la phonétique corrective qui m'aurait intéressé. La priorité à l'oral de la linguistique structurale, bien sûr, débouche sur les descriptions phonétiques phonologiques de la langue. Mais ici, les constatations de Galassi, les études de Galassi du début du siècle, déjà qui constataient l'insensibilité de l'université envers cette recherche linguistique, cette description linguistique d'ordre plutôt acoustique et physique, hein, ce n'était pas quelque chose de philologique de la langue. Eh bien, et donc, dans les années 50, la divergence de plus en plus marquée entre la phonétique happée par la technologie et la linguistique abstraite et désubstantialisée, à laquelle s'était rangée la phonologie, éloigne ceux qui s'intéressent à la phonétique appliquée à l'enseignement des langues des recherches phonologiques et des recherches structurelles. Et c'est ainsi que c'est à Mons que va naître avec Raymond Renard le Centre d'intérêt à la phonétique appliquée, qui va publier la revue de phonétique appliquée pour coordonner la publication et qui vont élaborer la méthode totale de correction phonétique, donc en dehors des établissements universitaires français. Bien sûr, il y a le CLAB, le Centre linguistique appliqué de Besançon, qui est responsable donc de la publication d'études de linguistique appliquée, qui fait énormément de choses, de toutes ces questions que je suis en train de dire, de lexique, de phonétique, de grammaire, évidemment, comme exception à ce que je dis de l'université française qui reste à l'écart de ce courant de recherche FLE. Bien sûr, cette phonétique appliquée à l'enseignement du français prend en compte la définition du phonème, des oppositions significatives et très distinctives, mais elle va développer, ce courant de recherche va développer l'approche auditive, articulateur et corrective de la phonétique en tant qu'outil d'enseignement complémentaire sous l'influence de Kuberina, bien sûr. Hein. J'ai eu la chance de visiter son centre de phonétique corrective à l'Université de Zagreb dans les années 72 à l'occasion d'avoir un projet dans notre lycée de l'année 78, 82 peut-être, On avait un projet d'intégration de sourds dans nos lycées et donc on a été envoyé une équipe de 4-5 personnes pour nous initier dans cette phonétique corrective de Luberina. Et donc c'était quelque chose de formidable, mais qui a débouché bien sûr sur une option de phonétique corrective, pathologie du langage dans les recherches du Centre international phonétique appliquée. Très difficile à appliquer ensuite très difficile par leur complexité, par l'ensemble des professeurs qui n'avaient pas une solide ou pas du tout une formation phonétique de départ dans leur formation. Ceci dit, bon, je dirais que de mon côté, j'ai eu également la chance, quand j'étais élève à l'Université de Valladolid, d'assister à des cours de phonétique assuré par un professeur Albert Supion, qui était un Français, qui nous a, pour moi, c'était une merveilleuse découverte dans les années 72-73, ce que c'était la phonétique française. Mais je pense que c'était des exceptions dans le panorama, dans le paysage formation universitaire espagnole. Ceci dit, donc, voilà comment la phonologie et la phonétique s'écartent. Prennent leur distance. On a vu les distances qui sont prises par le lexique et la langue parlée face à l'optique structurale. La phonétique appliquée prend aussi ses distances face à la phonologie élaborée par le structuralisme. Alors, dans ces deux domaines, donc, vous voyez déjà un distancement des applications face aux théorisations qui étaient faites donc, d'ordre de la doxa structurale, de ce que c'était la phonologie qui était très peu applicable à un contexte d'enseignement du FLE. Cependant, donc, à l'idée, revendique le besoin de cette phonétique pour l'enseignement. La manière est en disant, par exemple, dans la citation d'Aix-Templier, vous allez dans le numéro 8, hein, en disant « La matière de ce qu'on enseigne n'est pas la phonétique ou la linguistique, ce sont les résultats de l'analyse phonétique et linguistique, ce sont les résultats qu'il faut enseigner. » Et de même, Bertil Marmet se trouve donc dans le devoir, dans son ouvrage destiné aux étudiants de non-français de niveau universitaire, de concilier les deux approches, embarrassées par le lex de la méthode structurale et le besoin pédagogique, en disant, voilà, je pars du phonétisme français structural, phonologique, mais ensuite on passe au détail de comment se réalise dans la parole comme articulation, ce qui intéresse évidemment les étudiants de FLE, sont intéressés évidemment par l'approche articulatoire des phonèmes et pas autant par la solidité du système phonologique, elle est très distinctive. Et ici encore, on trouve un distanciement dans la question de la norme qu'il faut enseigner aux élèves, encore à nouveau la norme de ce qu'il faut prononcer, de la variété de français normé qu'il faut enseigner aux élèves, tant que choc heurte l'optique structurelle. Quelques mots évidemment aussi sur les applications de la grammaire. Je me suis basé surtout sur ces études, plus les préfaces des grammaires qui ont été faites à l'époque. Si vous voulez consulter le guide des grammaires qui ont été publiés à l'époque, faudrait, pour analyser la répercussion sur la grammaire, il faudrait donc partir de comment était enseignée la grammaire, qu'était-ce la grammaire française dans les années 30-40, en recourant au ouvrage de Chervel, la première, la seconde grammaire scolaire, d'accord. Ce qui est net, c'est qu'il y a un bilan critique énormément vaste sur les déficiences et les insuffisances de la grammaire traditionnelle et de même aussi de la grammaire structurale. Je passe en revue, vous avez les citations du 11. La grammaire est considérée comme qui exclut la scientificité de la description, puisqu'il faut une sélection des données, une simplification, une organisation, une visée pédagogique. Donc, de même, vous voyez ici l'écart entre l'approche scientifique structurale et l'approche pédagogique qui apparaît dans tout ce domaine-là. D'autres critiques sont plus fortes, celles que fait Lapeyre. Je m'intéresse, j'ai été très intéressé à son texte depuis pas mal d'années, la père qui est professeur d'anglais et qui parle d'une déshumanisation, d'une mécanisation de la grand-mère, l'obnubilation pour la sacro-sainte concrétion lexicale et grammaticale qui nous fait oublier comment sommes-nous arrivés là. Il se pose donc la citation que vous avez au numéro 11. Comment sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous brisé la belle rime saussurienne liant lexical, grammatical et social? Donc, c'est des réflexions très intéressantes, bien sûr, qui ne portent pas uniquement sur la grammaire structurelle, mais toute la grammaire traditionnelle qui a été héritée avec les modifications produites par la linguistique structurelle, la description structurelle. Donc, ici, l'opposition entre description linguistique et description, pas description, et besoin prescriptif de la grammaire choque de même et distance énormément les grammaires de l'optique structurale, de la doxa structurale. Cependant, de mon point de vue, je pense, j'ai utilisé certaines de ces grammaires-là pour mes cours, je pense qu'il se produit un net progrès dans les descriptions grammaticales. J'élimine ici les choses, l'approche fonctionnelle dans la définition, la description des catégories. Excusez-moi, la description des catégories grammaticales sous forme de sous-système, l'intégration d'une grammaire de l'oral, la proposition d'une approche orale du système verbal, l'intégration de la syntaxe propositionnelle, l'intégration des modalités des énoncés. Bien sûr, la réflexion que je ferai, c'est est-ce que ces changements sont passés au manuel, est-ce qu'ils sont passés aux pratiques enseignantes, évidemment, et comment, bien sûr, justifier une norme d'un point de vue structural de même. Donc, distance pas, de même dans les descriptions face au contexte d'application, et avec des questions qui me choque étant donné la description du verbe structural de Dubois est reprise par Sexy, par Josson ensuite dans le français le monde, était quelque chose d'extraordinairement merveilleux, simplifiant, éliminant le critère de la conjugaison à partir de l'infinitif et proposant un système à partir du radical qui change sous la modification de l'accent tonique. C'était quelque chose de merveilleux et qui, je vois, qui n'est pas reprise dans les manuels, même aujourd'hui, et qui est resté dans le vide, et c'est bien dommage. Bon, en tout cas, de même, les recherches en linguistique appliquées comparatives ou contrastives qui s'annonçaient dans les années 50, même de Bizet et de Pietro qui reviennent à elles, ont été balayées par l'influence de certains applicateurs du gérativisme type Krashen et le concept des interférences à éviter, de manière assez, je dirais, négative ou regrettable. Et face à cela, le besoin d'apprendre la grammaire est réaffirmé par Alivé, par exemple. Et la linguistique, finalement, va apparaître souvent comme instrument de légitimation de certaines pratiques grammaticales en disant « c'est du nouveau, c'est très bien, par conséquent, il faudrait le faire parce que c'est dans le courant ». Je vois qu'il me reste 4-5 minutes uniquement.
Il te reste une dizaine de minutes, Javier.
Une dizaine. Ah, merci, d'accord. Alors, ça va très bien, merci. Donc, deuxième grand chapitre, c'est la disciplination de la linguistique. Alors ici, je rentre en contact avec ce qui a été dit par Alice Boros, Clémentine Rubio et d'autres intervenants. Je vais proposer une vision peut-être décentrée, extérieure. Je n'étais pas là, hein, sauf tout de même, oui, j'ai passé une année à Paris, deux années à Paris comme assistant de français au lycée Louis-le-Grand. J'ai pu assister à un cours sur Saussure, cours magistral, travaux dirigés toute l'année en 75-76, qui m'a ouvert évidemment les portes de Saussure et de la linguistique. J'avais fait une matière de linguistique générale à l'Université de Valladolid, je n'avais rien appris, et donc à Paris, à Sorbonne, ça a été la grande découverte de Saussure pour moi. Et donc ici, je vais me limiter évidemment à la France, mais ce qui se passe dans pas mal de départements universitaires en dehors de la France peut être intéressant aussi à voir comment cette linguistique se disciplinarise peut-être parfois mieux ou plus vite que dans l'université française. Alors donc, le texte de Chevalier qui va jusqu'en 1956 montre comment se produit une certaine ouverture envers la linguistique nouvelle dans le CNRS et dans certaines institutions, mais de même aussi, comme le met en relief Coste en 1963, dans le compte-rendu d'une publication sur 61, d'une rencontre en 61, il y a énormément de résistance et de tentatives pour les débloquer. Les licences et maîtrises de linguistique se mettent en place peu à peu en 67. Je trouve un document énormément intéressant à lire pour connaître la situation du dedans, si vous voulez, de selon l'expérience des acteurs de l'époque, par exemple ce livre-là de Chevalier en crevette 2006, constitué par des entretiens avec des acteurs de l'époque, Jean Dubois par exemple, c'est extraordinaire, il y a aussi Cuglioli, il y en a d'autres. Je n'ai pas le temps de l'imiter, mais voilà, mais Cuglioli retrace comment il prouve la situation de l'université française face à la linguistique structurale. Et dans cette publication, Chevalier en crevette parle de l'apostolat d'un agrégé de grammaire parachuté chez Larousse et la diffusion du nouveau structuralisme français. Donc, très intéressant à voir. Bon, sous la direction de Dubois, il y a un article qui fait l'état des lieux par les professeurs même d'une série d'universités de Paris quant au programme de linguistique française, où sont posées les questions de la tradition, des débouchés, du recyclage des enseignants et des difficultés que rencontre la mise en place d'un nouveau programme. Le texte de Jean Dubois dans Grammaire scientifique et pédagogique dans ce même numéro fait certaines réflexions sur l'épistémologie des disciplines linguistiques qui me paraissent très intéressantes à lire, où il pose qu'il y aurait trois donc l'épistémologie des disciplines, c'est-à-dire le sens que possède une connaissance, hein, pour le sujet, pour la société. Alors il dit donc, quel est le sens de la linguistique? Alors il donne trois grands, une répartition en trois volets. Soit le linguiste, le discours scientifique est justifié en lui-même, hein, soit il est justifié par rapport à une application, soit il est justifié en rapport avec l'analyse, avec le discours pédagogique, dans le rapport entre les deux. Donc c'est très intéressant à lire. Et j'ai trouvé très intéressant de même ce qu'il dit à propos que les enseignants d'université, au bout du compte, ils ne tiennent que de discours didactiques. C'est la citation numéro 15, dans le sens que le discours scientifique tourne sa pratique de ce qu'on appelle la recherche. La recherche, donc, et le discours pédagogique dans l'enseignement, mais les discours pédagogiques, les discours didactiques sont les supports d'un savoir acquis ou d'un savoir transmis. C'est-à-dire que cette recherche va de même servir à soutenir le discours pédagogique, la formation des futurs enseignants, donc la direction de thèse, la préparation des enseignements de doctorat, et donc la préparation au concours, et donc la sélection dans les agrégations de CAPES, donc la sélection des... Donc, si vous voulez, conclusion qu'on peut tirer, c'est que la plupart des recherches linguistiques à cette époque-là, je dis bien, se justifient elles-mêmes de manière interne à l'institution universitaire. Bon, je dis bien à l'époque, hein, ensuite les choses vont changer. Quelques idées sur la linguistique appliquée, bon, qui préoccupe énormément toute cette période des années 60, 70, à laquelle sont revenus donc dans les publications d'époque, qui sont revenus énormément d'études, et donc ici de même les interventions de Dominique, Daniel Véronique et autres personnes. Que dire à ce sujet? Moi, je dirais deux idées ou trois idées uniquement. Vous avez les citations correspondantes de 17, 18, 19 qui sont là pour approfondir ce que je dis. Tout d'abord, que le début des années 60 naît avec une croyance optimiste et ambitieuse de cette croyance de la supériorité de la linguistique structurale et la supériorité de la méthode scientifique, autant dans la description du langage des langues particulières que dans les applications. Deuxième idée, que cette ambition avec laquelle surgissait trouve des problèmes d'ancrage institutionnel de cette linguistique structurale, donc qui se produit uniquement à partir des années 67 dans certaines maîtrises, maîtrises FLE, dérivées d'une situation spécifique de politique linguistique, structure de recherche, tradition épistémologique et organisation de l'université française, et du fait peut-être aussi que ce sont des institutions créées spécifiquement en dehors de l'université, sauf le CLAD, bien sûr, l'université de ce canton, qui vont produire les élaborations théoriques, les applications de la linguistique nouvelle. Linguistique nouvelle française qui ne va pas se reconnaître du tout dans le sillon de la linguistique appliquée américaine, et donc qui produisent donc la non-acceptation de cette terminologie et qui donc produisent en dernier lieu le développement spécifique et autonome d'un applicationnisme de linguistique appliquée en France. Ces réticences envers la linguistique appliquée, la terminologie elle-même, linguistique appliquée, mais aussi la tendance de la linguistique appliquée américaine telle que se pratique pratiquement dans tous les pays du monde, bon, peut-être pas en Angleterre non plus, et certains pays, je n'ai pas d'informations, mais qui dominent le panorama scientifique en tant que doxa, va produire des réticences d'une façon assez vite, tels que sont exposés par Benveniste, par Marchand également, par Martinet. Et on commence à produire un questionnement profond de cette base linguistique culturelle, telle que se faisait à l'époque aux USA. Principalement par la non-acceptation de la conception de la langue en tant que forme, et uniquement en tant que forme, donc qui était l'un des fondements de la linguistique structurale des années 50-60. Je reprends ici deux citations, ce que je considère crucial pour comprendre l'époque. Benveniste et Tullio De Mauro, donc, qui fait la préface de la réédition de Cours de linguistique générale 72. D'abord, Benveniste qui dit que le langage associé des syntiques qui s'établit sur deux plans signifie un signifié. Donc, le langage ne peut pas se limiter au signifiant et que le langage est aussi humain. Il est dans l'homme, le lieu d'interaction de la vie mentale et de la vie culturelle, et en même temps l'instrument de cette interaction. Une autre linguistique, voilà ce qui est très intéressant, une autre linguistique pourrait s'établir sur le terme de ce trinôme langue, culture, personnalité, un texte de 66, donc qui marque, je pense, une époque nouvelle dans le développement de la linguistique en France, en Europe aussi également. Quant à Tullio De Mauro, donc il met en relief comment ces méchants mentalistes européens avec Saussure étaient considérés donc comme des qui faisaient des choses absolument subjectives, qui n'étaient pas scientifiques, et que la linguistique sans signification devait servir de base à une étude scientifique en éliminant le projet de... Bon, finalement, approche humaniste.
Javier, il te reste une minute.
Une minute, oui, je finis parce que tout simplement je dis ici, hein, que ce courant de humaniste, formation culturelle, d'objectifs formatifs et culturels, existe à l'époque. Il n'a pas disparu. C'est un courant souterrain qui se cache. Pas jusqu'en 55, mais à partir de 55, la bibliographie proposée par l'UNESCO n'est plus en réalité. Et il y a des penseurs importants, Adolf Bollén, Clessé, Roche, hein, qui produisent, et on est sûr aussi, il y a des partisans de cette approche humaniste qui va s'estomper face à cette emprise, cet engouement, déferlement médiatique et engouement par le structuralisme, par les méthodes de la technification. Et donc, c'est ces réticences envers cette linguistique appliquée, cette conception d'une linguistique nouvelle qui surgit dans les années 60, donc, qui produit donc la naissance du concept de didactique de la langue étrangère, du FLE langue étrangère, en rejetant toute démarche applicatrice et possédant une élaboration propre, et en feedback avec les pratiques des enseignants et des professeurs, qui datent donc des années 60. Et finalement, comme conclusion, j'ai mis une conclusion un petit peu personnelle, c'est une énième bataille des anciens et des modernes à laquelle on assiste dans les années 60 en France, avec une particularité. Les positionnements des modernes, les partisans de la linguistique théorique, abstraite, scientifique, qui fonctionnerait en elle-même, où on voit s'aligner autant Chomsky que les chercheurs à l'idéologie marxiste, vont finalement perdre la bataille face à ceux qui revendiquent le caractère social du langage, sa réalité sociale, associant la linguistique à laquelle participent les penseurs marxistes comme Lefebvre, et qui fait l'union avec la langue, l'individu, la personne, la vie. Et c'est le surpassement de cette linguistique culturelle se produira également avec le changement de paradigme scientifique, du discours scientifique qui se produit en France à travers Lacan, Foucault, Derrida et d'autres. Donc, merci de votre attention. J'espère que je pourrai répondre à certaines de vos questions.